Bonjour à tous. Donc, Gérard nous a demandé d'essayer de faire un peu un cours de synthèse sur les différents aspects du manteau terrestre. Le cours pourrait effectivement se résumer à quelque chose, la formation, pardon, pourrait se résumer à quelque chose de relativement simple. Il faudrait qu'on arrive à établir ensemble cette vision un peu générale de la Terre, qui, je vous rappelle, est composée d'un cœur qui est le noyau, qui est liquide dans ses parties externes, solide dans ses parties internes, d'un manteau qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est toute cette couche verte dans laquelle on va distinguer un manteau inférieur, un manteau supérieur et une partie du manteau intégrée dans la couche superficielle qui s'appelle la lithosphère. Il y a cette zone complexe dont on découvre progressivement la complexité, qui est cette zone qui fait le passage entre le manteau et le noyau, qui s'appelle la couche des secondes, qui est une couche très active et très intéressante. On va regarder différents aspects, on va regarder des aspects dynamiques, ça sera cet après-midi, je crois, des aspects de chimie, vu du point de vue des éléments majeurs, et en particulier où ces éléments majeurs, qui sont le silicium, l'oxygène, le magnésium et le fer, vont se localiser dans des structures minérales. Puis, on regardera probablement avec Francis Albared tout à l'heure, comment des éléments qui sont là en faible quantité interagissent ou tracent des phénomènes à l'intérieur du manteau. Et puis finalement, on va utiliser aussi cette donnée très importante qui caractérise l'environnement dans lequel fonctionne le manteau terrestre, qui est un environnement de pression importante, de pressions qui vont de pas grand-chose à la surface de la Terre, 10 puissance 5 Pascal, 1 bar, jusqu'à frontière entre le noyau et le manteau, environ 1 350 000 fois la pression atmosphérique, donc 135 gigapascal, et des températures qui partent depuis 20 degrés Celsius, 300 Kelvin, jusqu'à 3000 Kelvin à l'interface entre le manteau et le noyau. Alors, je vais essayer de suivre un plan, d'abord faire une très rapide identification de ce manteau par rapport à d'autres grandeurs de la Terre. Regardez très brièvement l'origine du manteau. Regardez les outils dont nous disposons pour l'étudier. La sismologie, très rapidement. Des échantillons, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui viennent du manteau. Les expériences de laboratoire, qui permettent de recréer ces conditions de pression et de température importantes. La composition chimique et minéralogique du manteau, très brièvement. On rentrera un peu dans le détail quand même. La température du manteau, essayer de vous montrer comment, à partir de raisonnements assez simples, on arrive à se donner quelques éléments ou quelques points d'ancrage sur la température à l'intérieur du manteau. Et finalement, pour terminer, quelques questions. Alors, les transparents sont riches, il y a du texte avec, donc c'est pour que vous puissiez les utiliser par la suite. Ce ne sont pas juste que des illustrations. Donc, je vais commencer par la première chose, juste vous situer l'objet que nous allons regarder aujourd'hui, qui est le manteau. Le manteau est une des enveloppes les plus importantes de la Terre. 82% de son volume, 65% de la masse de la Terre. Vous avez ici ces données en kilogrammes. Et c'est une couche, comme on le verra, qui s'étend de la base de la croûte. Donc la base de la croûte, c'est de pas grand-chose à 80 km de profondeur. C'est la discontinuité de Morovitchik. Et jusqu'à l'interface avec le noyau, qui se situe quelque part vers 2900 km de profondeur. Et surtout, garder quelques ordres de grandeur sur la masse. Vous voyez que toutes les enveloppes importantes de la Terre, à l'exception de la croûte, sont dans des puissances, et du noyau interne, sont dans des puissances de 24 kg. Donc, gardez cet ordre de grandeur en tête, parce que quand on va faire des bilans de masse, c'est l'ordre de grandeur qu'il faudra considérer. Il a une chimie, évidemment, on retrouve pratiquement tout le tableau de Mendeleïev dans le manteau terrestre, mais sa chimie est dominée par quelques éléments majeurs qui sont ici donnés. L'oxygène, le silicium, le magnésium, le fer, l'aluminium, le calcium, sodium, vous voyez que là on commence déjà à parler pratiquement de traces, potassium. Ici, leurs abondances en pourcentage de poids dans le manteau, comparées aux trois autres enveloppes de la Terre solide, qui sont les croûtes continentales ou océaniques et le noyau. Donc une dizaine d'éléments constituent la chimie de base de cet objet que nous regardons aujourd'hui. Ce manteau terrestre, il s'est formé à l'issue d'un processus complexe dont on retrouvera des traces en particulier dans les éléments de traces. Mais de manière très simple, la Terre s'est formée à partir d'un matériel très primitif, qui ressemblent probablement à des météorites dont on trouve encore des traces aujourd'hui, qui s'appellent les chondrites. Et le processus de fabrication du manteau et de l'ensemble des enveloppes de la Terre résulte d'un processus dit de différenciation qui nous fait passer d'une Terre, on va dire globalement, chimiquement homogène, en une planète qui va se différencier en différentes enveloppes qui sont le noyau, le manteau, la croûte ou les croûtes et l'atmosphère et l'hydrosphère. Alors schématiquement, on part d'un matériel qui est compliqué mais qui est primitif, qui contient du métal, des silicates. Ces objets peu différenciés vont être incorporés dans cette planète qui grandit, qui s'appellera la Terre. Et le processus de différenciation sera relativement simple. Il sera gouverné par trois mécanismes, qui sont d'une part les contrastes de densité, les affinités chimiques des éléments et les processus de fusion partielle qui construisent en particulier la croûte continentale ou la croûte océanique à partir du manteau. Donc le processus de différenciation, c'est de prendre le fer qui se trouve dans ce matériel initial, de le faire migrer pour former le cœur de la planète qui s'appelle le noyau. Il restera après une partie silicatée qui est le manteau de la Terre, cette grosse enveloppe, de laquelle va être extrait au fur et à mesure de l'histoire de la Terre les croûtes, qu'elles soient continentales ou océaniques. Donc ce processus de différenciation conduit donc à des enveloppes silicatées, à un noyau métallique, et à des enveloppes gazeuses et liquides. Alors, après cette brève introduction, on va commencer à rentrer dans le sujet, essayer de voir comment, à partir de la sismologie, on arrive à se donner une image ou un certain nombre de propriétés du manteau terrestre. Pour cela, on va utiliser les ondes qui se propagent lors de séismes naturels ou de séismes provoqués. Et là, on utilise tous les principes de propagation des ondes et des modifications de propagation des ondes liées à des changements de propriété de la matière, en particulier des paramètres, des grandeurs élastiques des matériaux. On va utiliser des principes de temps de diffusion, c'est-à-dire de parcours, pardon. Les ondes vont mettre un certain temps pour voyager et ce temps, en fait, va dépendre de la densité, de la compressibilité, du cisaillement de la matière traversée. On va aussi utiliser des phénomènes de réflexion et de réfraction de ces ondes, de la même manière qu'on le fait avec des rayons optiques, on le fait avec des raies sismiques. Donc avec les raies sismiques, on va regarder des réfractions ou des réflexions d'ondes sur les surfaces. On va aussi utiliser des phénomènes qu'on appelle la diffusion des ondes. Par exemple, quand vous regardez un faisceau lumineux au travers d'un verre d'eau, donc il se propage très naturellement, vous mettez des suspensions dans ce verre d'eau. La lumière est diffusée par les particules en suspension dans l'eau. Eh bien, le principe s'applique aussi en sismologie. Une onde sismique, quand elle se propage et qu'elle rencontre un milieu où il y a de l'hétérogénéité, des grains de propriétés différentes, alors c'est des gros grains hein, quand même, quelques dizaines de kilomètres, on peut aussi observer des phénomènes de diffusion qui donnent des renseignements sur en particulier l'hétérogénéité des différentes couches de la Terre. Et finalement, il y a un autre aspect qui s'appelle la tomographie sismique qui permet de faire des images, de faire des contrastes de zones ou de différentes vitesses de propagation des ondes. On va regarder des zones où les ondes se propagent plus ou moins rapidement par rapport à un modèle. Et là, le principe est simple. Il y a des ondes qui traversent des zones avec des propriétés différentes. Et en regardant les temps d'arrivée des ondes ou les accélérées ou ralenties, on arrive à délimiter à l'intérieur de la Terre des zones qui n'ont pas des propriétés moyennes, qui s'écartent d'un modèle moyen de Terre que je vais vous présenter maintenant. Donc ça, c'est pour ce que je viens de dire. Alors, ce modèle moyen de Terre, c'est quoi? C'est un modèle qui sert de référence, qui s'appelle le modèle PREM, qui veut dire Preliminary Reference Earth Model. C'est un modèle où on prend l'ensemble des données de propagation des ondes à la surface de la Terre, duquel on extrait un modèle moyen de Terre, c'est-à-dire un modèle que l'on appelle radial, c'est-à-dire que quel que soit le rayon de la Terre, c'est le modèle de référence pour la propagation des ondes à l'intérieur de la Terre. Ce modèle, il est représenté ici avec trois données essentielles. La vitesse des ondes P, donc la vitesse des ondes P qui dépend de trois paramètres élastiques. La manière, un premier paramètre qui s'appelle la compressibilité ou l'incompressibilité, qui est l'inverse de la compressibilité ici K, qui mesure la résistance ou la facilité avec laquelle la matière se comprime au passage d'une onde. Le module de cisaillement qui, lui, mesure la résistance de la matière au passage d'une onde de cisaillement ou d'une composante de cisaillement. Et puis la densité ou masse volumique de la matière traversée. On voit donc ici comment varie la vitesse des ondes P, donc de compression. La vitesse des ondes S qui, elles, ne dépendent que de deux paramètres, le module de cisaillement et la densité. Et puis finalement, un troisième paramètre que l'on arrive à inverser en utilisant d'autres données que la vitesse de propagation des ondes, qui est la densité. Et là, tout de suite, sur ce modèle très simple de représentation moyen de ces propriétés, on peut voir les grandes enveloppes du manteau terrestre, qui sont d'une part ce manteau inférieur, cette grande zone qui s'étend depuis la base du manteau, depuis la surface du noyau, pardon, jusqu'à 660 km de profondeur. Vous voyez que dans ce manteau inférieur, les propriétés moyennes sont assez uniformes. Il n'y a pas significativement de rupture. Les propriétés comme la densité ou la vitesse augmentent continuellement, alors qu'il existe une zone au-dessus, entre 410 et 660 km de profondeur, dans laquelle, premièrement, l'augmentation de la vitesse de propagation des ondes, l'augmentation de la densité est d'abord différente, la pente est différente de celle que l'on observe dans le manteau inférieur, et d'autre part, elle est caractérisée par des sauts brusques ou finis des propriétés de propagation des ondes. Donc cette partie-là qui se situe entre 660 et 410 km de profondeur, là, on observe des variations importantes des propriétés élastiques des matériaux, ça s'appelle la zone de transition du manteau. Et tout ce qui se situe entre 660 et la base de la base de la croûte s'appelle le manteau supérieur. Alors, ça, c'est le modèle moyen. Alors, le modèle moyen, on peut l'enrichir en essayant de regarder comment on s'écarte de ce modèle moyen à l'intérieur de la planète. Et là, l'outil est ce qu'on appelle l'imagerie sismique ou la tomographie sismique. Donc, essayer de passer d'une représentation où on a un modèle moyen des localisations de séismes, donc une image assez, on va dire, statique de la Terre, à une image où on va essayer de regarder les hétérogénéités. Et voilà ce que l'on fait, ce que l'on obtient comme type d'image sur ici deux endroits. Ici, vous avez une coupe au large de l'Amérique du Sud. Donc ici, vous avez la surface de la Terre. Là, vous avez l'interface avec le noyau. Et voici ce que l'on observe, c'est-à-dire les écarts par rapport à ce modèle moyen de référence. Et vous voyez, alors, le code de couleur est ce qui est rouge, c'est des zones où les vitesses de propagation des ondes P et S sont plus faibles que le modèle moyen. Et puis des zones en bleu où vous avez des vitesses de propagation plus élevées que le modèle moyen. Donc ici, on commence à regarder des hétérogénéités à l'intérieur de la Terre. Et là, si on peut passer à maintenant des interprétations, donc on y reviendra. Passer de ce qu'on avait avant comme image de la Terre, par exemple pour la subduction, qui était essentiellement marquée par les foyers des séismes, hein, particulier ici, vous voyez ces foyers de séismes qui vont jusqu'à à peu près 700 km de profondeur, qui marquaient les plaques qui rentraient en subduction, et on pensait la limite de la subduction à l'époque, on pensait que les plaques, il y a une vingtaine d'années, s'arrêtaient vraiment à la discontinuité des 660 km, à une image où on pense que ces zones de forte vitesse des ondes, c'est-à-dire où les ondes sont plus rapides que le modèle moyen, correspondent en fait à ces plaques et à l'image de ces plaques rentrant dans le manteau à l'heure actuelle. Donc on a ces images maintenant qui suggèrent, ici en particulier, que cette plaque rentre dans le manteau inférieur et on en voit la trace jusqu'à plus de 1000 km de profondeur. Et donc l'idée est de relier ces images, qui sont des images à l'instant actuel, à des images intégrées de l'histoire d'une subduction et à des mouvements de matière dont vous entendrez parler cet après-midi dans les modèles de convection. Alors vous en avez, il y a toute une zoologie, hein, après c'est comme tout, il y a les différents types. Donc ici nous avons différents types de subduction, ici en Amérique centrale, celle que je vous montrais tout à l'heure, donc où on devine ici, si on interprète bien sûr ces images en termes de subduction, une subduction qui s'étend jusque dans le manteau inférieur. Ici au niveau de la mer Égée, une subduction assez bizarre, mais qui est où on devine aussi que la plaque semble passer cette discontinuité des 660 km. Au Japon, par exemple, où on a des images qui suggèrent que du matériel descend par la subduction pour aller pratiquement se coucher sur la discontinuité avec le noyau. Et puis, ce cas où on voit des choses qui s'écoulent, qui semblent s'écouler ou s'étaler sur la discontinuité des 660 km avec des parties qui rentrent à l'intérieur du manteau inférieur. Donc, on est passé d'une image très statique ou très homogène du manteau à des images où on voit de l'hétérogénéité, une hétérogénéité à grande échelle, bien sûr, qu'il faudra essayer, et je pense que Francis peut-être en parlera cet après-midi, essayer de relier essayer de tracer par d'autres marqueurs qui sont les éléments géochimiques. Alors, on rentre aussi un tout petit peu dans le détail, parce que je le réutiliserai tout à l'heure. Par exemple, ces discontinuités sismologiques que l'on observe à 410 km de profondeur et 660 km de profondeur, sont des discontinuités de vitesse. Les vitesses augmentent entre là et là, les densités augmentent entre là et là, de manière brusque. Eh bien, ces discontinuités, on les utilisera tout à l'heure, vous verrez, pour regarder un peu des problèmes de température. Mais déjà, aussi, là, on a progressé. Ces discontinuités ne sont pas uniformément à 410 km ou à 660 km autour de la Terre. Elles présentent une topographie, donc des variations de profondeur, en particulier dans les zones de subduction, où ces discontinuités, par exemple celles des 410 km, se retrouvent à plus basse profondeur ou plus proche de la surface dans les zones de subduction, alors que celles des 660 km se trouvent plus profondes. Donc on voit aussi un signal sur ces discontinuités sismologiques, signal qui se traduit par une variation topographique dont il va falloir trouver les raisons ou les interprétations. Le manteau est aussi le siège de très fortes pressions et de très fortes températures. Alors, lisez pas tout ça, c'est juste un calcul où on fait un calcul très simple. On écrit ce que c'est que la pression, c'est ρgh. Et rien qu'avec ça, et connaissant la densité moyenne de la Terre qui est de 5500 kg par mètre cube, ou une densité de 5,5, on peut estimer très rapidement quelle est la pression à l'intérieur de la Terre. Et on peut montrer, par exemple, que si on fait ce calcul et qu'on le fait juste pour voir quelle est la pression à l'intérieur de la Terre, en prenant une densité moyenne de la Terre de 5,5 ou de 5,44, on arrive à une pression qui est de l'ordre de 350 gigapascales au cœur de la planète. Or, la vraie pression mesurée, celle où on intègre vraiment la densité, les variations de densité avec la profondeur, est de 365 gigapascales. Donc, vous voyez que même à l'ordre de grandeur, en utilisant des relations assez simples de physique, vous trouvez très rapidement le bon ordre de grandeur ou les bons ordres de grandeur pour la pression à l'intérieur de la Terre. Donc c'est un paramètre important, cette pression, parce qu'elle varie, on l'a dit, très rapidement. Et dans le manteau, il va falloir que l'on regarde comment la matière, comment les éléments vont s'adapter à ce régime de pression très élevé, qui est en plus variable et qui est associé, on le verra tout à l'heure, à de très fortes variations de température aussi entre le sommet du manteau et la base du manteau, des variations de température de l'ordre de 2000 degrés et des variations de pression de l'ordre de 1 million d'atmosphères. Donc il va falloir que l'on étudie le comportement des matériaux, le comportement des éléments chimiques dans ces conditions de pression et de température pour essayer de bien comprendre l'évolution et l'histoire de ce manteau. Le manteau terrestre, on peut aussi, et c'est ce qui intéresse les géologues, l'étudier directement au travers des quelques échantillons qui nous arrivent depuis le manteau. Il y a des échantillons qui remontent au travers d'inclusions ou de nodules dans des basaltes. Ça, ce sont des enclaves qui sont des enclaves de ces roches du manteau emprisonnées dans un basalte, ou alors des sections de manteau qui affleurent, en particulier dans les grands complexes ophiolitiques où on a la chance, particulièrement en Oman, de pouvoir accéder à ce qui se situe juste sous la discontinuité morovitchique dans des sections de croûte océanique. Jusqu'à 200 km de profondeur, on peut donc, et on va le voir, analyser ces roches qui viennent du manteau directement. Et ces roches, elles, ce sont des péridotites. Alors, il y a toute une zoologie de péridotites. Elles sont plus ou moins riches en ces trois composants qui sont les trois minéraux de base, qui sont l'olivine, l'orthopyroxène et le clinopyroxène. Mais en moyenne, on peut montrer que la roche majeure du manteau appartient à la famille des péridotites, avec des variations entre la teneur des différents types de minéraux. En gros, c'est l'olivine, le pyroxène et le plagioclase qui caractérisent ces péridotites jusqu'à des profondeurs, on va dire, de l'ordre de 40 km, 40-50 km. Puis, on passe à des roches où l'olivine et le pyroxène sont toujours les minéraux les plus abondants, mais où le plagioclase, donc le stockage de l'aluminium en particulier, ne se fait plus dans le plagioclase, mais dans un spinel, qui est un oxyde d'aluminium et de magnésium. Et puis qu'au-delà, jusqu'à 200 km de profondeur, profondeur de laquelle on a vraiment beaucoup d'échantillons représentatifs du manteau, l'olivine, le pyroxène sont toujours là, et la phase alumineuse n'est plus le spinel, mais le grenat. Donc ces roches sont des roches qui ont des textures de roches très souvent bien équilibrées, avec l'ensemble de ces phases bien représentées. Elles peuvent être plus ou moins déformées, ça va dépendre un peu des contextes, mais vous trouverez dans la littérature toute la zoologie de ces différentes péridotites. Et puis il y a quelques échantillons. Donc jusqu'à 200 km, les choses sont relativement bien connues, parce qu'on a suffisamment de volcans qui échantillonnent ce manteau jusqu'à des profondeurs de 200 km. Pour des profondeurs plus grandes, l'échantillonnage est largement moins bon. Il y a de moins en moins d'échantillons qui viennent de grandes profondeurs. Il y en a quelques-uns qui sont associés à un mécanisme bien particulier, un mécanisme éruptif bien particulier, qui sont les kimberlites. Donc ce sont des laves bien particulières qui remontent à très très grande vitesse et qui, au moment de leur montée, arrachent tout plein de matériel dans leur conduit, et dont l'origine de ces magmas peut remonter à des profondeurs. Les roches à l'origine de ces magmas peuvent venir de profondeurs qui vont jusqu'à 700 km de profondeur. Et pour attester ces profondeurs, on a des roches dont je vais vous parler tout à l'heure, et puis aussi des éléments assez intéressants qui sont les diamants. Et à l'intérieur de ces diamants, des inclusions minérales, le diamant étant formé à grande profondeur dans le manteau, au moment de sa croissance, il englobe des fragments des roches dans lesquelles il pousse. Donc il échantillonne aussi au moment de sa croissance l'endroit où il s'est formé. Et donc, je vais d'abord parler des diamants. On va retrouver dans les diamants deux types d'inclusions. Soit des inclusions d'olivine et de grenat, et puis on va appeler cette famille des diamants éclogitiques, ou des diamants dans lesquels on va trouver coexistants des pyroxènes et des grenats. Donc on a deux types d'inclusions, dont vous avez ici une image, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais ici vous avez par exemple un diamant, et puis dedans, vu en transparence, des petites inclusions minérales. Alors celle-là, par exemple, c'est des grenats bien particuliers, on en reparlera tout à l'heure, qui cristallisent qu'à des pressions qui correspondent à des profondeurs au-delà de 400 km à l'intérieur de la Terre. Et on verra tout à l'heure qu'il en existe des qui viennent probablement de plus bas. Oui ? Oui, je viens de m'en rendre compte. Oui. C'est éclogitique ici et péridotitique ici. Donc pyroxène, grenat, c'est là. Et olivine, vous inversez éclogitique et péridotite. Hein, olivine, grenat et pyroxène, grenat. Donc il suffit d'inverser ici, mais on le corrigera tout à l'heure. Et puis vous avez ces roches. Là, c'est des blocs, hein, des polyminéraux contiennent, par exemple ici vous avez des grenats, puis des pyroxènes, et puis on retrouve dans ces grenats, dans ces gros grenats, on retrouve ce qu'on va appeler des petites exsolutions, de petites baguettes de pyroxènes, qui attestent aussi que cette roche était initialement sous un état de très haute pression, probablement des pressions qui existent vers 500 km de profondeur, et ces roches-là sont remontées et en remontant se sont décomprimées et se sont retransformées en autre chose. Mais ces figures-là que l'on observe dans ces roches attestent d'une formation à des profondeurs de l'ordre de 500 km. Alors, donc jusqu'à 500 km ou 700 km pour certaines inclusions de diamants, on a de vagues idées de ce que serait la minéralogie du manteau. Alors, l'autre manière d'aborder le problème, comme on n'a pas d'échantillon, c'est d'essayer de se proposer un modèle minéralogique. Un modèle minéralogique, alors là, il va falloir faire un certain nombre d'hypothèses, mais l'idée de base, c'est de se dire, je pars de ces constituants essentiels que je connais des péridotites, qui sont ces trois minéraux majeurs que je vois dans les péridotites qui viennent de 200 ou 300 km de profondeur. Et l'idée, c'est de dire, ben, je vais voir comment se comporte cette roche si effectivement je la mets à plusieurs profondeurs différentes pour voir si je vois comment elle se transforme, je vois quelle structure minérale se fabrique. Mais je fais une hypothèse de dire que la composition chimique ou la composition chimique de cette roche est à peu près la même tout au long du manteau. Donc c'est déjà une hypothèse, mais on va l'utiliser par souci de simplicité. On pourrait le faire avec des chimies variables, des minéralogies variables. Mais l'idée de base est de se dire, je vais considérer que le manteau a à peu près une composition homogène, et puis je vais effectivement essayer de me promener à l'intérieur de la Terre. Ce qui revient à se promener le long d'un géotherme, c'est de prendre cette roche, alors ça c'était en profondeur, et en fonction de la pression et de la température, c'est-à-dire je vais essayer de suivre un géotherme de la Terre, et puis je vais regarder comment une roche se transforme le long de ce géotherme. Alors, une manière d'aborder, alors il y a plein de techniques expérimentales, mais je vous parle de celles que je connais, qui est la cellule à enclume de diamant. Je ne vais pas, tout est écrit, donc vous pourrez le relire. Le principe de base est de comprimer entre deux pierres gemmes, entre deux diamants gemmes, un échantillon. Donc ces deux diamants gemmes sont là. On a une feuille de métal dans laquelle on fait un trou, et la chambre de pression n'est en fait que le petit trou dans la feuille de métal. Et on va comprimer l'échantillon entre les deux diamants. Alors pourquoi la pression augmente ? La pression, elle augmente parce que quand je vais rapprocher les deux diamants, le volume du trou va diminuer. Donc en fait, tout le volume qui est occupé ici par soit un gaz, soit un liquide, soit un solide, mais comme je diminue son volume, la pression augmente. Et c'est le principe de base de pratiquement toutes les technique de haute pression, c'est de comprimer la matière, donc de diminuer son volume pour faire augmenter sa pression, simplement comme si on faisait, comme on appliquait la loi des gaz parfaits sur un gaz, sauf qu'on le fait sur un solide. Cette technique permet donc de monter très rapidement à des pressions de plusieurs millions d'atmosphères, et après, il s'agit aussi de chauffer l'échantillon. Chauffer l'échantillon, il y a deux manières de le faire. La première, c'est de chauffer avec un petit four qui entoure l'échantillon, ou alors, deuxième technique, c'est d'utiliser le fait que les diamants sont transparents à la lumière infrarouge et que les minéraux que l'on étudie absorbent le rayonnement infrarouge, et donc de focaliser au travers des diamants sur l'échantillon un faisceau laser. Ce faisceau est absorbé par l'échantillon. Cette absorption conduit à une augmentation de température de l'échantillon. Et ici, si vous le devinez, là, vous avez un échantillon, par exemple, dans une cellule diamant qui est localement chauffé jusqu'à 3000 degrés. Donc, ces techniques-là permettent de couvrir toute la gamme de pression et de température du manteau terrestre. Ici, vous avez un géotherme. Donc, vous voyez qu'on arrive actuellement avec les techniques de chauffage laser, on peut même monter un peu plus haut maintenant, à couvrir. Je vous rappelle que le manteau, c'est à peu près jusque-là. Donc, vous voyez qu'avec ces techniques-là, on couvre tout le domaine de pression et de température du manteau terrestre. Alors, l'intérêt de ces techniques, c'est la question qu'on s'est posée, c'est de savoir comment se comportent les minéraux d'une péridotite quand on descend à l'intérieur de la Terre ou quand on la transporte fictivement à l'intérieur de la Terre. Eh bien, il va falloir détecter les changements de phase. L'intérêt de ces techniques de haute pression, que ce soit la cellule à enclume de diamant que je viens de vous présenter ou d'autres techniques, c'est qu'on peut y coupler des sondes pour suivre l'évolution des structures ou l'évolution des compositions chimiques en fonction de l'augmentation de pression et de température. Par exemple, on peut, dans une cellule diamant, couramment focaliser un faisceau de rayons X et regarder le spectre de diffraction de la matière, le spectre de diffraction donnant les positions des atomes et la structure des minéraux. On est capable de voir comment l'agencement des atomes et la structure des minéraux évoluent avec la pression et la température. Alors, on peut le faire sur les composants élémentaires, c'est-à-dire on peut prendre les minéraux les uns après les autres, on peut prendre l'olivine de la péridotite, le pyroxène, le grenat. Alors très rapidement, si on prend un système simple, parce que je le réutiliserai tout à l'heure, si je prends un système très simple qui est le système de l'olivine, MgFe2SiO4, si je regarde le système purement magnésien, on peut établir que l'olivine, somme toute, est stable dans un vaste champ de pression et de température, mais que pour certaines conditions de pression et de température, cette structure minérale se déstabilise pour former une structure plus dense, ça c'est important, plus dense, avec un agencement différent des atomes, qui est cette phase-là. Cette phase-là, si je continue de la chauffer, de la comprimer, elle n'est stable que dans ce champ ici. Au-delà de cette droite d'équilibre, elle se transforme en une nouvelle structure, elle aussi plus dense, toujours de même composition chimique. Et puis finalement, quand on arrive à ces pressions-là, à ces pressions, conditions de pression et de température, elle se transforme non plus en quelque chose qui a la même composition chimique, mais une structure différente, mais en deux minéraux différents, ou en deux cristaux différents, qui sont d'une part la perovskite MgSiO3 et l'oxyde simple de magnésium, qu'on appelle le périclase. Donc, sur un système simple, on arrive à explorer très rapidement les changements de phase, et surtout, il faut bien retenir que ces changements de phase s'accompagnent de changements dans les propriétés élastiques. La phase bêta est plus dense que la phase alpha, la phase gamma est plus dense que la phase bêta, et la phase MgSiO3, ou le mélange MgSiO3 plus MgO, est plus dense que le composé gamma Mg2SiO4. Alors, là, on a regardé, juste pour montrer que ça peut rapidement devenir compliqué quand même, là, on rajoute juste 10% de fer pour se rapprocher d'une composition d'olivine du manteau. Les champs de stabilité qui étaient avant délimités par des droites, là, ne le sont plus. Il existe, vous le voyez sur ce diagramme-là, des zones où on ne passe pas directement de l'olivine alpha Mg2FeSiO4 à la phase bêta MgFe2SiO4. Il existe un intervalle de pression ici, dans lequel les deux phases existent. Et on verra l'implication ou l'interprétation ou l'utilisation de ce diagramme ultérieurement pour regarder en particulier les discontinuités sismologiques. Même chose pour le passage bêta-gamma, même chose, mais de manière moins prononcée, pour le passage de gamma MgFe2SiO4 à la perovskite. Alors, je vous ai mis ça, alors je ne vais pas le commenter ici, c'est juste, vous essayerez, le commentaire est suffisamment long pour que vous puissiez voir comment la composition chimique, c'est-à-dire la teneur en fer, par exemple, de l'olivine, modifie le diagramme de phase. Ça, c'est quand il n'y a que du magnésium. Vous voyez que vous passez de alpha en bêta en un point. Là, je suis à une température donnée. Donc, on passe en un seul, un point, et puis pof, on passe directement à la phase bêta. Si vous mettez 10% de fer, ce qui est la teneur du manteau, vous voyez que quand vous augmentez la pression à une température donnée, fixe, vous atteignez une zone de mélange qui s'étale sur une certaine pression, sur un certain intervalle de pression. Puis finalement, vous avez bêta, puis vous avez un intervalle de pression dans lequel vous avez les deux, etc., etc. Là, vous trouverez, je ne vais pas le... Aussi, je peux le commenter, la manière dont maintenant les choses se passent plus concrètement. Vous voyez que quand vous arrivez ici, vous allez avoir ici le passage de alpha vers un mélange d'alpha plus bêta, puis bêta. Vous partez d'une composition X0, donc 10% de fer. Vous voyez que quand vous faites du bêta, il aura aussi 10% de fer. Mais quand vous vous promenez ici à l'intérieur, là, quand la pression se situe à l'intérieur de cela, les deux phases qui coexistent n'ont pas la même composition chimique. Parce que tout le monde comprend que ici, j'ai une olivine qui est en équilibre avec une phase bêta qui n'a pas une composition X0, mais une composition Y1. Vous comprenez ça? Et puis, au fur et à mesure où j'augmente la pression, vous voyez que l'olivine va s'appauvrir en fer, et la phase bêta sera plus riche en fer, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive ici, on aura une phase bêta qui aura la composition initiale, et une phase alpha qui sera appauvrie en fer. Donc, mais à la fin, effectivement, à la fin de l'expérience, quand je serai dans ce champ-là, j'aurai retrouvé la composition de départ. Mais retenez bien que dans cette zone de mélange, les deux composés n'ont pas la même composition chimique. Alors, je disais que c'est, je ne sais pas si vous les voyez, vous voyez quelque chose ? Oui, peut-être, oui. Donc ces phases-là, alors ce n'est pas juste pour vous montrer que des beaux dessins, c'est pour vous dire que ces phases-là, elles n'ont pas la même structure. Elles ont la même composition chimique, ces phases de l'olivine, mais elles n'ont pas la même structure. Et c'est ça qui est important à retenir, c'est la structure changeant, les propriétés élastiques changent. Je vous ai déjà dit que la densité changeait, que quand on passe de la phase olivine à la phase bêta à la phase gamma, la densité augmente. Mais la densité augmente, il n'y a pas que ça qui change. Il y a aussi la compressibilité qui change. Cette phase-là est moins compressible que l'olivine. Cette phase-là, gamma, est moins compressible que la phase bêta. Les modules de cisaillement changent aussi. Donc l'ensemble des propriétés, en particulier des propriétés qui caractérisent la vitesse de propagation des ondes sismiques, changent dans ces différents matériaux. Ce qui est aussi le cas pour la pérovskite et le périclase. Je vous ai donné quelques images de ces structures juste pour insister quand même sur un point, avant de passer à autre chose. Ici, il y a un point important, le silicium est au centre de tétraèdre dans toutes ces structures, donc il est tétra-coordonné, un silicium 4 oxygènes, alors que dans la phase pérovskite, ici, le silicium se trouve au centre d'octaèdre, donc l'augmentation de pression, et on va dire l'augmentation de densité, se traduit aussi par ce qu'on appelle un changement de la coordination, ou un changement de coordination du silicium qui passe au moment de la transition phase gamma vers l'assemblage MgSiO3 plus MgSiO3 en structure pérovskite à du silicium hexacoordonné. Là, je ne résiste pas à vous présenter un diagramme tout nouveau qui vient de sortir là, il y a quelques mois maintenant. On peut faire les mêmes expériences dans le système des pyroxènes, on va dire. Et là, on en prend un très simple qui est MgSiO3. Donc là, vous avez un diagramme température-pression. Puis vous voyez que, en fonction des conditions de pression et température, on va trouver un certain nombre de structures minérales stables. Et jusqu'à présent, on pensait que cette structure qu'on a déjà vue apparaître quand on transforme de l'olivine au-dessus de 25 gigapascal, cette structure pérovskite, on pensait jusqu'à il y a quelques mois que c'était la structure que cette structure était stable dans toutes les conditions de pression et température du manteau inférieur. Jusqu'à il y a quelques mois où Murakama, qui est un japonais comme son nom l'indique, a fait des expériences en cellules en clume de diamant. Alors je vous montre ça, mais c'est quand même le spectre de diffraction qui montre cette expérience. Vous voyez qu'ici nous sommes à 105 gigapascal, donc on est à, on va dire, 2500 km de profondeur à l'intérieur de la Terre, des températures de 2200 Kelvin, et vous voyez ici les pics de diffraction de ce qu'il indexe ici P, la pérovskite. PT, c'est du platine qui sert de milieu de transmission de chaleur. Donc ici, vous avez tous les pics de la pérovskite. Et quand vous montez quand vous chauffez l'échantillon à plus de 120 gigapascal, c'est-à-dire presque à 2900 km de profondeur, vous voyez qu'il y a des nouveaux pics qui apparaissent, la pérovskite disparaît, beaucoup de pics de la pérovskite disparaissent, puis vous avez de nouveaux pics qui apparaissent. Donc là, vous passez à une nouvelle structure minérale. Et Murakama a commencé, et ses collaborateurs ont commencé à faire plusieurs points et ont montré qu'il y avait probablement à modifier le diagramme de phase du pyroxène. Et vous voyez qu'on change d'échelle quand même ici. Et que dans les conditions très proches de la base du manteau, probablement que la pérovskite MgSiO3 n'est pas stable et qu'elle se transforme en une structure qu'on, pour l'instant, on appelle post-pérovskite parce qu'on ne l'a pas complètement déterminée. Donc, cette structure post-pérovskite, elle est... vous voyez qu'il y a toute une famille de minéraux de même composition chimique, post-pérovskite, pérovskite, majorite, ilménite, etc., qui montre que, un peu en fonction de là où vous allez vous trouver à l'intérieur de la Terre, dans une zone de subduction ou loin d'une zone de subduction, mais il va falloir regarder un peu, parce que le pyroxène peut, somme toute, adopter un certain nombre de structures différentes. Alors, cette structure de la pérovskite... cette nouvelle phase de la pérovskite, la voilà, je n'ai pas eu le temps de la redessiner comme ça. Ça, c'est de la publication originale de Murakama. Elle est très différente. C'est des couches. Vous voyez, il y a comme des feuillets d'octaèdre. Hein, il y a des feuillets d'octaèdre, alors que dans la perovskite, il n'y a pas de feuillets d'octaèdre, si je la retrouve. Il n'y a pas de feuillets, ils sont tous tournés les uns par rapport aux autres. Là, vous avez vraiment une organisation en feuillets. Et là, ça excite beaucoup les géophysiciens, parce que ces structures minérales sont extrêmement anisotropes. Donc, pour expliquer un certain nombre de propriétés, en particulier à la base du manteau. Et beaucoup de gens maintenant pensent que cette structure-là peut correspondre à des observations d'anisotropie que l'on observe dans la zone qu'on va voir tout à l'heure, qui s'appelle la zone des secondes, qui est cette zone à la limite du manteau et du noyau. Alors, comme je vous le disais, ces phases, et ça, il faut pas le retenir, mais il faut quand même s'en rendre compte, c'est ces variations de propriétés. C'est ça qu'il faut bien retenir quand on étudie ces changements de phase, c'est qu'à ces changements de phase, on va associer des changements de propriétés élastiques qui sont mentionnés ici. Hein, le volume, il suffit de faire la masse sur le volume et vous avez la densité, les paramètres qui s'appellent l'incompressibilité, etc., etc. Tous ces paramètres changent au moment des transformations de phase. Et ces transformations de phase, on va essayer de les utiliser pour interpréter ce que l'on observe dans le manteau. Après avoir regardé des minéraux pris individuellement, on peut aussi regarder des roches. Au lieu de prendre juste un minéral, d'essayer de le transformer, on peut aussi prendre une roche, puis regarder comment cette roche se comporte quand on l'amène à différentes profondeurs à l'intérieur de la Terre. Donc, par exemple, ici, c'est une roche type, hein, une péridotite type, olivine. Donc, vous êtes ici à faible pression, faible profondeur, à 100 km de profondeur, donc c'est une roche qui contient de l'olivine, du grenat, du pyroxène. Puis maintenant, vous regardez comment les proportions des minéraux, alors c'est des pourcents, proportions volumiques des minéraux changent en fonction de la profondeur. Alors dans ce diagramme-là, vous voyez qu'au départ, la péridotite contient 60% d'olivine, 10% de grenat, 20% de pyroxène. Vous voyez que cette roche-là, après avoir étudié et puis bien regardé le diagramme de phase, vous voyez que à 400 km, à 410 km de profondeur, ben on rencontre la transformation de phase. L'olivine se transforme en sa phase de haute pression qui s'appelle la phase bêta ou la wadzéléite. Et que le pyroxène se dissout dans le grenat et vous ne retrouvez plus que du grenat dans une structure de haute pression qui s'appelle la majorite. Quand vous allez à 660 km de profondeur, eh bien, votre ingwoodite, en fait, s'est transformé en un assemblage de perovskite et de magnésioviscite, mais le grenat, lui aussi, s'est transformé. Vous ne retrouvez plus de grenat. Vous allez retrouver essentiellement de la perovskite avec du calcium, de la perovskite avec du magnésium et cet oxyde MgO. Donc, on peut aussi le faire avec des roches comme on l'a fait avec des minéraux. Et maintenant, il y a des gens qui mesurent même les propriétés élastiques de tous ces assemblages. Alors, ce n'est pas encore de la routine, mais on arrive maintenant à mesurer les propriétés de l'assemblage complet directement dans les expériences. Bien. Revenir un tout petit peu sur la chimie et la minéralogie du manteau, mais sur l'aspect chimie. Donc, je vous rappelle, la Terre, initialement, était probablement quelque chose de relativement homogène, qui avait grossièrement la composition chimique d'une chondrite, ou d'une classe de chondrites, que la Terre a subi une différenciation, en particulier une différenciation très importante qui est la différenciation du noyau par rapport à la Terre silicatée. Et donc il y a eu un manteau primitif, puis ce manteau, il a, par sa fusion partielle, alimenté la fabrication des différentes croûtes au cours de l'histoire de la Terre. Et il s'est donc, entre guillemets, appauvri, et Francis vous parlera probablement des traceurs de cet appauvrissement. Et on regardera... Il regardera comment on trace cet appauvrissement, au cours du temps. Donc, le manteau, il a été d'abord primitif. On va regarder un manteau primitif. On peut regarder un manteau primitif, pardon. Et puis, un manteau qui est un manteau qui a enregistré l'ensemble de l'histoire de sa différenciation. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut faire des bilans chimiques pour différents éléments. Et on peut essayer de construire une chimie à la fois du manteau primitif, à la fois de la Terre globale, à la fois du noyau, en s'amusant avec différents modèles différentes classes de chondrites, différents échantillons. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais juste les bases, hein, c'est quand même c'est des bilans de masse. On fait beaucoup de bilans de masse en géochimie. Ici, très simplement, un bilan de masse de l'oxygène, c'est quoi pour la Terre ? Le bilan de masse pour l'oxygène, c'est de dire l'oxygène de la Terre globale, c'est-à-dire si je mets remélanger toute la Terre, eh bien, c'est la concentration moyenne de l'oxygène de cette Terre globale multipliée par sa masse. Et puis ça, c'est égal à la masse de l'oxygène dans les différents réservoirs de la Terre, qui sont d'une part le manteau, d'autre part la croûte, d'autre part le noyau, et finalement la partie atmosphère hydrosphère. On peut le faire pour le fer, par exemple. Le fer, il n'y en a pas dans l'atmosphère. D'accord ? Donc l'équation se simplifie. On peut encore la simplifier un peu plus, parce qu'on peut se dire, par exemple, on peut s'amuser à dire que le bilan de masse de fer de la Terre, eh bien, on peut enlever ça parce que ce n'est pas beaucoup de signal sur la Terre. La croûte continentale, c'est quelques fractions de pourcent de la masse globale de la Terre. Donc le bilan du fer, il est essentiellement conditionné. Le bilan total du fer de la Terre est essentiellement conditionné par la quantité de fer qu'il y a dans le manteau et la quantité de fer qu'il y a dans le noyau. Donc ça, c'est... Après, c'est... on fera des... Vous ferez des hypothèses en fonction de ce que vous voulez montrer. Si vous voulez juste faire un bilan massique du fer à la surface sur l'ensemble de la Terre, vous pouvez simplifier un certain nombre de termes des équations. Alors, juste, vous retrouverez tout ça et il y a un TD corrigé sur ça qui sera mis sur formation sur l'espace pédagogique. On peut estimer, alors il y a plein d'écoles pour estimer des compositions chimiques de ce manteau peu ou pas différencié, ce manteau primitif, dont il est difficile de retrouver des traces quand même objectives dans les roches. On ne trouve pas de roches du manteau qui n'ont pas subi d'événements de fusion partielle. Je crois qu'il n'existe pas d'échantillon de ce manteau initial vierge, parce que ce manteau, il fonctionne depuis plus de 4 milliards d'années, il convecte, il échange, il reçoit des éléments depuis la surface, on en extrait, etc. Mais il existe des échantillons qui sont les plus vierges possibles. Et ceux-là, on les définit, on arrive à les retrouver. Ici, vous avez, par exemple, un diagramme qui permet de les différencier, qui est le diagramme aluminium sur magnésium, silicium sur magnésium, qui vous permet de regarder là toutes ces roches du manteau, toutes ces péridotypes, et de dire, mais les moins différenciées ou celles qui ont subi le moins d'événements de fusion partielle ou d'extraction de matériel, ou qui ont vu revenir du matériel depuis la surface vers l'intérieur, ce sont des roches qui sont caractérisées par un rapport silicium sur magnésium élevé et un rapport aluminium sur magnésium élevé. Et donc ces roches-là permettent de définir les teneurs ou les rapports des teneurs aluminium-magnésium, silicium-magnésium. Après, en utilisant 2-3 recettes, on arrive à construire une composition chimique de ce manteau primitif. Vous trouverez un TD complètement corrigé sur cela dans les ressources informatiques qui sont à votre disposition. Finalement, ce manteau primitif, on arrive à trouver sa composition chimique, que vous avez ici exprimée en différents, soit en rapport d'éléments, soit en poids pourcent d'éléments, soit en plus classique, mais de peu d'intérêt, en poids d'oxyde. Parce que si vous voulez faire des bilans de masse, vous avez plutôt intérêt à passer par des éléments. Et puis maintenant, on sait mesurer. Ça, on faisait ça avant parce qu'on ne savait pas mesurer les éléments. Maintenant, on sait mesurer les éléments les uns après les autres. Comparé à un modèle de référence qui s'appelle la pyrolite, dont je ne parle pas aujourd'hui. Ce manteau, il est toujours intéressant de le comparer à ce qu'est la Terre globale. La Terre globale, c'est la Terre mélangée. C'est la Terre, c'est les chondrites qui ont fabriqué cette planète. Juste pour vous rappeler que la différence entre le manteau et cette Terre primitive ou cette Terre non différenciée se situe sur quelques éléments. Vous voyez en particulier que le manteau différencié ou le manteau primitif est beaucoup plus oxydé que ne l'est une chondrite. Il est beaucoup plus pauvre en fer que la Terre globale ou que les météorites qui ont fabriqué la Terre. C'est normal parce que le processus de différenciation a extrait le fer de ce matériel primitif pour fabriquer le noyau. Et vous retrouvez donc dans ces comparaisons élément par élément le processus de différenciation et le traçage de la différenciation chimique de la Terre. Finalement, pour mémoire, la composition chimique du noyau de la Terre. Alors, là aussi, beaucoup de textes, mais Maintenant, il faut essayer de voir si tout ce qu'on se raconte, tout ce que je raconte, pardon, depuis le début, a un sens par rapport à la question que je me pose, c'est de quoi est fait l'intérieur du manteau terrestre. Donc, on a une composition chimique globale. Maintenant, est-ce qu'on peut y coller une minéralogie, on va dire, raisonnable, qui complète cette minéralogie que l'on connaît à partir des échantillons de surface, qui arrivent à la surface, qui sont des échantillons qui, pour la plupart, proviennent de moins de 200 km de profondeur. Eh bien, la méthode, c'est d'utiliser le tableau qu'on s'est donné tout à l'heure, hein, qui est de dire, eh bien, en laboratoire, je sais que j'ai des transformations de phase qui se passent à certaines pressions, certaines températures. Ce qui est intéressant de voir, c'est que je peux regarder les variations des grandeurs ou des paramètres élastiques ou des caractéristiques de ces différents matériaux, puis essayer de les comparer avec ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Alors, je vous rappelle, par exemple, qu'à 410 km de profondeur, vous avez un saut de densité qui est assez important, hein, qui est de l'ordre de 10%, 8%. Hein. On passe d'une densité de 3,54 à une densité de 3,72. Eh bien, si vous faites le calcul, je vous ai mis ici les masses molaires, si vous faites le calcul ici du saut de densité qu'il y a en passant de l'olivine alpha à l'olivine bêta, mais c'est pratiquement un saut de densité de 8%. Et la pression à laquelle a lieu cette transition, qui est vers, on va dire, 13-14 gigapascal, correspond pratiquement à l'intérieur de la Terre à une profondeur de 400 km. De la même manière, le saut de densité que l'on a entre le manteau supérieur et le manteau inférieur à 660 km de profondeur, vous voyez, est un saut de densité, on va dire, lui aussi de l'ordre de 5 à 10%. Et bien, quand vous calculez le saut de densité qui se produit entre la structure gamma MG2SiO4 et l'assemblage MgSiO3 de structure perovskite plus MgO, vous allez retrouver le même ordre de grandeur. Et la pression de cette transition correspond à peu près à une profondeur de 660 km. Donc on peut modéliser, en fait, ce que serait la minéralogie du manteau si on prenait cette roche fictive et on dit, mais cette roche, en fait, c'est la même composition chimique, mais à différentes profondeurs. On peut le modéliser en essayant de projeter ou de calculer la densité d'une roche type ou d'une péridotite prise à 200 km de profondeur. On peut calculer sa densité à différentes profondeurs et voir si ça correspond à quelque chose par rapport aux données sismologiques. Alors ça, c'est réalisé ici. Ici, vous avez ce qu'on regardait tout à l'heure, le modèle PREM. En bleu, la vitesse des ondes P. Ici, en tireté noir, la vitesse des ondes de cisaillement. Ici, la courbe de densité. On peut calculer la densité d'une roche de type péridotite, olivine, pyroxène, grenat, prise en fonction de la profondeur, avec tous les changements de phase minérale qu'elle peut subir, on peut calculer la densité à chaque profondeur le long d'un géotherme de la Terre. Et ce que vous observez, c'est que effectivement, on arrive à reproduire, alors, évidemment pas parfaitement, mais les sauts de densité, par exemple, hein, à 410 et à 660 km, on arrive à reproduire les sauts de vitesse aussi, le modèle n'est pas parfait, bien sûr. Mais ce modèle, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on arrive à reproduire très raisonnablement les observations sismologiques en disant que, en gros, le manteau a probablement une composition chimique homogène, que les roches que l'on voit en surface, les péridotites, eh bien, probablement existent aussi à l'intérieur de l'ensemble de la Terre, mais avec des structures minérales différentes, parce que les structures minérales ou les minéraux s'adaptent aux conditions de pression et de température en changeant leur structure par rapport à ce que l'on observe jusqu'à 200 km de profondeur. Cette transition de phase ou ces transitions de phase permettent aussi d'expliquer très brièvement les observations de variations de topographie des discontinuités sismologiques à la surface de la Terre. Vous verrez en particulier que, comme la température ici, dans une zone de subduction, en fonction de la profondeur dans la zone, ici, dans le manteau, eh bien, comme les pentes des changements de phase ne se font pas. Pardon, comme les changements de phase ne sont pas toujours à la même pression, quelle que soit la température, eh bien vous voyez que quand vous êtes loin de la zone de subduction, le manteau, la transition a lieu ici vers 400 km, et que plus loin, dans la zone de subduction où il fait plus froid, où la température est plus basse, eh bien comme ça se passe à plus basse température, ça se passe aussi à plus basse pression, elle se trouve donc plus haut dans la zone de subduction qu'elle ne l'est dans le manteau, Inversement, parce que la pente de la droite de transformation est dans l'autre sens, vous voyez que dans la zone de subduction, la profondeur de transition pour passer à Mg2SiO3 se fait à plus forte profondeur, à plus forte pression. Donc là aussi, on commence à trouver de la cohérence dans l'ensemble de ces modèles. Alors, est-ce que ça correspond aussi à ce qu'on a vu dans nos échantillons ? Bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure de ces échantillons d'inclusion dans les diamants. Je vous ai tout à l'heure évoqué cette majorite. Ici, vous avez un de ces échantillons extraordinaires là, qui a été ici vu dans le diamant en inclusion, et puis ici extrait, puis poli, et puis analysé à la sonde ionique. On retrouve ces structures de haute pression préservées dans des inclusions de diamants. Donc, c'est assez satisfaisant. On pense qu'il y en a qui viennent de très profondes, ces diamants, peut-être même qui viennent du manteau plus bas que la base du manteau inférieur. Enfin, toujours est-il qu'il y en a quelques-uns qui arrivent, on est sûr maintenant, de plus de 600 km de profondeur, parce qu'on y retrouve des assemblages qui sont maintenant transformés, bien sûr, d'assemblages MgFeSiO3 plus MgFeO. C'est exactement ce que l'on attend, d'accord, comme assemblage de transformation de l'olivine dans des conditions du manteau inférieur. On retrouve maintenant des inclusions qui contiennent à la fois ce qui était de la perovskite, parce que ça s'est quand même retransformé en remontant vers la surface, et l'oxyde, qui traduit le fait que l'olivine ou les phases de haute pression de l'olivine ne sont plus stables dans les conditions de pression et de température du manteau inférieur. Donc tout cela devient un peu plus cohérent au fur et à mesure. Et juste pour synthétiser un tout petit peu ce que j'ai raconté jusque-là, voilà à peu près ce que pourrait être la minéralogie de l'intérieur de la Terre, la minéralogie du manteau inférieur, et puis peut-être ce que pourrait être la minéralogie de cette couche un peu bizarre qui se trouve près de l'interface avec le noyau. Ici, les échantillons. Et ici, pour mémoire, j'en ai pas parlé, les transformations dans un basalte quand il rentre en subduction, où on retrouve aussi toutes ces phases de haute pression. Alors, il me reste combien de temps, Gérard ? Il est parti. Très bien.
Il a dit pas grand-chose.
Pas grand-chose ? J'ai encore du temps ?
Oui, un peu.
Un peu ? 5 minutes ?
Francis n'est pas là, vas-y.
Ah, Francis n'est pas là, donc ça va. Donc l'intérieur de la Terre, juste, là il y a beaucoup de textes, mais je veux juste, il y a tout un paragraphe ici sur lequel je ne vais pas parler beaucoup parce que tout est écrit. Donc c'est l'intérieur de la Terre vu du point de vue thermique. Donc là, on laissera tout en place, comme ça, sur les transparents, tout est écrit. D'accord, je le balaye très rapidement. Tous les ordres de grandeur sont faits, les calculs sont faits. D'accord, vous avez juste à le lire. Je ne vais pas vous l'exposer. Non, mais je vais pas le. D'accord, mais non, mais c'est très simple. Vous avez juste à remplacer les valeurs qui sont là pour obtenir la courbe qui est tracée à côté. La seule chose sur laquelle je vais m'arrêter 30 secondes, c'est celle-là. C'est pour vous montrer comment on peut aussi, à l'aide de ces transitions de phase, construire un géotherme, essayer de se donner des idées de ce qu'est la température à l'intérieur de la Terre. Donc on a dit depuis le début, j'espère que vous avez compris, qu'à 400 km de profondeur, c'est les transformations de phase qui expliquent la discontinuité sismologique, ce saut de densité. Donc je peux dire qu'à 400 km de profondeur, si j'utilise ce diagramme, je sais qu'à 400 km de profondeur, c'est cette pression. Donc si cette transition à 400 km de profondeur, 410 km de profondeur est due à la transformation de l'olivine en spinel bêta, eh bien c'est que je me trouve ici. Si je me trouve ici, j'espère que ça marche, ça veut dire qu'à 660 km de profondeur, je me trouve ici. D'accord ? Ici, je peux, et vous en entendrez parler cet après-midi, tracer, on va dire, un gradient géothermique connaissant ce point d'ancrage à 660 km de profondeur, parce que je dis qu'à 660 km de profondeur, bien la température, c'est la température qui correspond à la transition de phase. Donc j'ai un point d'ancrage ici, après je trace un gradient, vous verrez qu'on n'a pas beaucoup de choix à l'intérieur de la Terre par la convection, c'est probablement de l'ordre de 0,1 à 0,5 Kelvin par kilomètre, et donc on arrive à estimer la température dans le manteau inférieur. De la même manière, on peut le faire dans le manteau supérieur, et utiliser ce point-là maintenant. 660, c'est 1800 K, 410, ça va être quelque chose plus bas. Et je peux l'utiliser. Alors normalement, ça, voilà. C'est cette partie-là. D'accord ? Pour le manteau inférieur, vous voyez le passage de l'un à l'autre, là ? Donc ça, c'est le manteau inférieur. Donc on s'ancre à 660 en utilisant ce point-là. Et dans le manteau supérieur, on prend le point qui correspond à 410 km et on tire vers le haut. Et ça, vous verrez que c'est le profil qui correspond à ce qui est là, que vous calculerez. D'accord ? Bien. Voilà. Et donc, pour schématiser, voilà. Puis je vous ai aussi donné dans le noyau, mais là aussi, il y a un TD normalement, ou c'est sur le site planétaire, je ne sais plus, on avait fait une fois, donc ça, c'est pour ça que je ne le refais pas. Et puis, on peut aussi, somme toute, se donner un thermomètre local. On peut aussi, somme toute, si on connaît la hauteur de la discontinuité de la transition olivine-spinel dans une plaque en subduction, on va trouver l'écart de température par rapport au manteau. Est-ce que vous voyez ça ? Là, je sais que je suis à cette température-là. Si elle est à cette hauteur-là, je suis à cette température-là. Donc, je suis à 600 dans la plaque, alors que je suis à 1300 dans le manteau à côté. Et donc, en fait, la hauteur, la profondeur de la discontinuité dans la plaque, en fait, c'est un thermomètre. C'est un thermomètre, un vrai thermomètre, assez simple. Il suffit de mesurer la profondeur de la discontinuité et vous avez la température à l'intérieur de la plaque. Donc, c'est une manière d'utiliser les transitions de phase pour avoir des idées sur la température à l'intérieur de la Terre. Je vais terminer par deux... parce qu'on pense que tout est toujours très simple. En fait, j'ai essayé de montrer des choses simples. En fait, ce n'est pas si simple que ça, c'est très compliqué. Voilà. Et ces hétérogénéités là qu'on voit là, par l'imagerie sismique, les trucs bleus, rouges, que les gens interprétaient jusqu'à présent comme du chaud et du froid, c'est-à-dire plus c'était bleu, plus c'était froid, mais ça aurait pu inverser les couleurs pour un peu mettre de piment dans les affaires. Mais quand c'est lent, quand c'est rouge, là, quand c'est lent, tout le monde dit c'est parce que c'est plus chaud. C'est vrai que la densité est plus faible, c'est vrai que la vitesse des ondes est plus faible quand c'est chaud, et que quand c'est froid, c'est plus dense et les ondes se propagent plus rapidement. En fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'on peut très bien avoir des zones rouges, c'est-à-dire des zones où la vitesse des ondes est plus lente que le modèle moyen, bien, s'il y a des changements de composition chimique aussi. Donc la température elle n'est pas le seul paramètre qui gouverne la vitesse des ondes sismiques. Il y a aussi, là, par exemple, la teneur en fer. Un échantillon d'olivine qui a une teneur en fer élevée à une densité plus élevée que de l'olivine qui ne contient que du magnésium, mais la vitesse des ondes n'est pas plus rapide, elle est plus lente. Tous ces paramètres, on ne sait pas très bien dans quelle gamme ils varient à l'intérieur de la Terre. Donc interpréter au premier ordre, probablement par les températures, c'est assez raisonnable, les variations là, que l'on observe, mais rien ne dit qu'on n'a pas des zones où on a d'autres effets, comme les effets de composition chimique, qui peuvent introduire des hétérogénéités observées par la sismologie. Puis la dernière chose que je voulais regarder, dont je voulais vous parler, c'est cette couche des secondes. Cette couche des secondes est une couche qui fait, on va dire, entre pas d'épaisseur jusqu'à 300 km d'épaisseur, qui est très variable à la surface du noyau, hein, c'est une zone très très riche à la surface du noyau, et qui a une très très grande variabilité. Hein, voilà par exemple l'image qu'on pourrait s'en donner au-dessus d'une subduction, par exemple en Amérique du Sud. On pense par exemple qu'il y a du matériel qui arrive sur cette couche des secondes, qui se repose dessus. Vous avez probablement des départs de points chauds qui peuvent se trouver associés à cela. Dans d'autres contextes, comme le contexte d'Hawaï, on voit que la structure n'est pas exactement la même. C'est beaucoup plus continu, et puis il y a peut-être une alimentation du point chaud qui part de là. Et puis finalement, sous les gros cratons anciens, eh bien, on a peut-être une couche des secondes très épaisse, etc., etc. Donc là, on est en train de découvrir un monde absolument extraordinaire, et qui est probablement aussi compliqué que la lithosphère. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas plus compliqué que la lithosphère, qui est déjà très très complexe. Hein. Là, on est dans un degré de complexité que l'on découvre, qui est quand même important, parce que je vous rappelle que la différence de densité entre le manteau et le noyau, c'est exactement la différence de densité qui est entre cette table et l'atmosphère. D'accord ? Donc, il faut imaginer qu'on est en train de regarder ici, On est en train de sonder un monde qui correspond, par exemple, à ce qui se passerait entre, enfin, qui a un contraste de propriété exactement le même que celui de cette table et l'air ambiant. Donc, on se retrouve dans un monde qui est comme la lithosphère, somme toute. C'est-à-dire, la lithosphère, c'est la limite de la lithosphère, c'est le sol et l'air. Eh bien, ici, vous imaginez qu'on a la même chose à l'envers et que vous avez ici un monde qui est probablement aussi compliqué, on va dire, que ce monde de surface qui est gouverné, en gros, par les plaques lithosphériques. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste que vous ayez tous les documents et je ne les ai pas tous évoqués, donc vous pourrez soit les consulter, soit nous poser des questions, puis il y aura des TD corrigés sur le site. Voilà, merci beaucoup.